On a eu toute une petite surprise. En fait, on était dans le quartier Centre-Sud à ce moment-là. Puis je vivais avec deux colocs aussi. Puis ben, on sortait tout le temps notre recyclage, genre le soir, vraiment tard, là, tu sais, comme toujours. Puis on savait que ça passait le matin, là, mais tu sais, c'était trop tôt comme pour nous autres. On n'allait pas se lever vraiment de bonne heure. Puis un matin, on se rend compte que on a une amende de 170, je pense que c'était 166 en fait, pour être précis.
Au nom de qui?
Au nom de. En fait, c'était ça qui était bizarre. C'était le nom de. C'était le courriel de ma coloc.
OK.
Puis finalement, après, on reçoit deux autres amendes pour la même date, la même infraction à mon nom puis au nom de ma coloc. Fait que finalement, on entreprend des démarches. Là, on se dit, on va aller à la cour. Là, tu sais, c'était bien excitant. Puis finalement, on arrive là-bas. Puis moi, je m'attendais, là, tu sais, à plaider. Là, on s'était mis dans la tête. Là, tu sais, ça allait être le gros dossier. Puis finalement, en fait, ils te font passer dans un petit bureau avant. Puis j'explique la patente. Puis très sérieusement, là, madame, elle me montre des photos de notre recyclage, des photos de notre sac éventré. Là, c'est ça. Fait qu'elle dit, on a pris des photos, donc très clairement, vous avez sorti votre recyclage. Vous auriez dû le sortir entre 5 h le matin et 8 h le matin.
Ben là, excuse, mais c'est pas tout le monde qui a le même horaire.
Ben, c'est ça, exactement. Donc, je dis oui, sauf que là, nous, on veut faire quelque chose. OK, pour l'infraction, ça va, c'est absurde, mais bon, on va en payer une, mais on veut pas en payer trois pour la même affaire. Donc, elle dit, c'est correct, c'est tout à fait légitime. Donc, elle a annulé les deux autres. De même. Mais j'ai dit, je comprends pas pourquoi c'est le nom de courriel de ma coloc qui est dans le sac, qui est sur l'amende. Elle a dit, ben, c'est parce qu'on a trouvé ça dans le sac. J'ai dit, OK, donc si j'avais mis le nom de mon chat sur un papier dans mon sac de recyclage, ben, mon chat a dit, votre chat aurait eu une amende. Donc, c'est aussi absurde que ça.
Vous êtes présentement à l'écoute de l'émission Dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Et cette semaine, on ne parle pas de voyous ou même d'abus de pouvoir, mais bien de recyclage.
Je me dis combien de monde se déplace pas parce qu'ils ont juste pas le temps puis qu'ils font juste payer.
Ouais.
Ils doivent tellement se faire de l'argent avec
ça.
Il doit y avoir plein de chats qui ont des amendes.
Selon un article du Devoir du 4 février 2008, l'arrondissement Ville-Marie a mis en vigueur un très lucratif nouveau règlement sur la propreté. Sur 8 mois en 2007, 2193 contraventions auraient été données. Donc, on estime à 1,2 million de dollars le profit par année. C'est rentable, recyclé.
Deuxième anecdote. Ben, en fait, c'était vraiment à côté. Ben, en 2007-2008, Ville-Marie, en fait, Centre-Sud, a fait un boom là, d'amendes là, sur le recyclage. Là. Il était vraiment sévère. Puis la coopérative de travail Touski, où je travaillais, qui est aussi dans Centre-Sud et qui l'est toujours d'ailleurs, ben, on a eu une amende de recyclage, mais comme vraiment pas longtemps après que j'ai eu cette amende-là. Donc, j'étais vraiment en feu sur le cas. Et en fait, c'est qu'ils ont, on sort notre recyclage à chaque semaine, là, tu sais, évidemment. Puis même on engage un gars qui était de l'école secondaire Pierre Dupuis. Puis lui, c'est ça, il voulait s'impliquer, puis tu sais, il trippait justement à participer à la coopérative. Puis c'est lui qui sortait notre recyclage. Et l'amende qu'on a reçue était de 600 $. Et on en a reçu deux, donc ça totalisait, c'était ça, 1275 en tout cas avec les...
C'était pourquoi les amendes?
C'était parce que ça dépassait 1 m³.
Donc, de l'espace prévu
la
pour
superficie.
Le recyclage?
Ouais, donc c'était trop gros, ils ont mesuré, parce que tu sais, évidemment c'est un commerce, fait qu'on a des boîtes de carton, des trucs là, tu sais... Puis là, c'était quand même bien cordé, là.
Ouais.
Mais c'était trop gros. Ça dépassait 1 m³. Donc, on a eu ces amendes-là. Ouais. Mais je me disais, combien de personnes aussi, c'est quoi le message que ça donne, tu sais? Moi, j'avais plus le goût de recycler après ce qui m'était arrivé. Puis c'est sûr que je recycle encore, là. C'est sûr et certain, là. Mais je me dis, quelqu'un qui commence à recycler ou qui sait pas trop comment ça marche, qui a une amende, oublie ça, là. Tu recycles plus, là.
un peu partout dans la place en attendant que tout se passe. Je m'abandonne de temps en temps à des éclats sans précédent, sans que rien ne se brise en penchant comme la tour de Pise. Mais sans ça, ça, est-ce que tu m'y vois? Chouba, 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 chouba. Mais ça, 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 dis-le-moi pour une fois. Chouba, 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 chouba. Sans se retenir, à laisser quelques belles traces, bien que fatiguée, mais la tenir matanée, la lâcher m'a rendu têtu. Je ne faisais plus que le guet, mais pas ces inaperçus.
C'est quoi le nom de votre entreprise?
Atelec TV.
Ça fait combien de temps que vous avez cette entreprise?
25 ans.
25 ans. Puis justement, on parle du fait que les gens jettent de plus en plus au lieu de faire réparer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, je suis bien d'accord. C'est depuis que les nouvelles TV, c'est encore pire. Les nouvelles TV durent à peu près 4-5 ans. Parce qu'il n'y a pas de pièces. Il n'y a rien, aucune pièce en Amérique, même pas aux États-Unis. Ouais, un petit peu en Californie, tu peux fermer des modules quand ces TV-là font défaut, mais les modules vont à peu près 175-200$. Qui en payait sa TV 500, il ne veut pas faire réparer, il met au bout. Vu que je suis dans l'ordinateur, le gros fléau, c'est les imprimantes aussi. Ça, c'est le plus gros fléau qu'il n'y a pas eu, ça.
Ah ouais?
Les imprimantes, ça ne fait rien.
Pourquoi? Qu'est-ce qui est spécial avec les imprimantes?
Ben, une imprimante, ça vend à 49$, puis il va te vendre de l'angle à 35$. Ouais. Tu sais, si tu penses qu'il arrive. Il la met au vidange, mais il en est une neuve.
Quand vous aviez commencé votre entreprise, j'imagine qu'il y avait pas mal plus de travail.
Bien sûr, aujourd'hui, il n'y a plus de réparation. Avant, j'avais 400 appels par jour pour réparer. Donc, c'est 400 appels par mois, pas pareil. La seule réparation qu'on a encore, c'est les personnes âgées, parce que les autres, ils tiennent à leurs vieilles affaires. C'est pas compliqué, ils savent c'est le bouton, ils savent comment marcher la manette, les autres font réparer.
OK. Puis est-ce que vous pensez qu'il y a de l'avenir dans le métier de la réparation?
Non, il n'y a plus d'avenir, c'est fini.
Ouais.
Complètement fini.
Le monde fascinant des objets est frappé d'un mal qui date pas d'hier. Ce mal qui a causé l'agonie du métier de réparateur a été propulsé par les nouvelles technologies. Il touche surtout deux catégories de produits, les électroménagers et l'électronique. Ce mal a un nom, l'obsolescence programmée. Fabien Durif, directeur de l'Observatoire pour la consommation responsable, nous explique ce que c'est.
Une définition simple, l'obsolescence est tout simple, c'est que à un moment donné, la durée de vie d'un produit qu'on possède, elle est influencée par l'introduction d'un nouveau produit qu'on va juger supérieur. Donc ça rend le produit qu'on avait obsolète. Et il y a plusieurs facteurs qui influent cette obsolescence-là. Bon, premièrement, souvent, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence économique, c'est-à-dire que lorsque le consommateur il voit un nouveau produit, il peut se dire, tiens, nouveau produit est bien plus, il semble bien mieux, puis un, il n'est pas extrêmement cher par rapport au produit que j'avais acheté, ou le deuxième facteur qu'on connaît, c'est l'obsolescence technologique, celui qu'on voit le plus dans les médias. C'est-à-dire tout simplement que le nouveau produit est bien plus performant au niveau technologique. Il y a plein de nouvelles caractéristiques, des applications techniques, etc. Ce qui fait que là, tout d'un coup, on a l'impression que le produit qu'on possède est complètement dépassé.
Il existe un dernier genre d'obsolescence apparu avec la pub, le design et les goûts démesurés, l'obsolescence psychologique. Soit cet amour viscéral du neuf qui te fait sentir out vraiment vite.
T'appelles où, là?
J'appelle pour un iPhone 5.
T'as déjà un iPhone 4?
Oui, mais je...
Tu sais que ça a de plus, un iPhone 5?
Ben, il y a un...
Il y a quoi?
Je te le dis, il y a un.
Hein?
Il y a un plus 4 égale 5.
Apple est quand même le spécialiste où souvent, changement de produit, changement de connexion, donc les fils changent, les câbles changent, donc ça nous pousse à tout renouveler, parce que là, imaginons... Prenez le dernier iPhone 5, ils ont changé la prise de connexion. S'il n'y a pas les applications, il faut tout rechanger. Donc, il y a beaucoup de gens, on nous repousse, beaucoup de consommateurs vont changer, même si au bout du fond d'eux, ils disent, j'en avais vraiment besoin, pas tellement, mais je vais changer.
Un exemple souvent cité est celui du cartel de Phébus entre 1924 et 1939. Il s'agissait d'un oligopole composé notamment de GE et de Philips. Le puissant cartel avait limité à 1000 heures maximum la durée de vie des ampoules à incandescence sur le marché. C'est une première forme de planification industrielle délibérée pour contrôler la durée de vie d'un produit. On parle aussi des bas de nylon qui filent, de l'imprimante Epson et de la batterie du iPod. Pourtant, plusieurs sceptiques du complot industriel soulignent que la culture de la surconsommation est bien servie simplement par la mode, la volonté de fabriquer plus vite pour moins cher et les nouvelles technologies. Une société de gaspillage planifié, donc, qui fait plus beaucoup de pubs sur le critère de durabilité.
Nous faisons moins de choses dans toute une journée que la plupart des gens en font avant l'aube. Non, ce travail n'est pas pour tout le monde. Mais si vous aviez du cran, vous pourriez vous joindre à nous. Nous sommes uniques. Patients.
Et seuls.
Mes tags, les gens fiables.
Bonjour, bonjour.
Ici, c'est des pièces réparées seulement. Vous demandez ou
ici, c'est tout usagé.
C'est tout usagé. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de monde qui vient acheter usagé ou de moins en moins?
Non, il y a beaucoup de monde qui.
Ouais, hein?
Ouais.
Okay. Mais prends-les après l'autre de bord. Bon, on prend l'une, on en remettra là cette semaine.
Le king du recyclage d'électroménager à Montréal, Ameublement Elvis.
Est-ce que les pièces existent encore pour réparer?
Ah oui, tu sais que, regarde, j'ai un réfrigérateur, c'est un Bélanger, c'est un 67. Ces pièces-là font sur... j'ai des frigidaires neufs de l'autre côté, là. Je peux te dire que 80 % des frigidaires qui rentrent.
Ah
oui? Oui. Il y a des marques, par exemple, qui sont spécifiques. Comme LG, là, j'ai un petit problème pour la réparation de ça. Faut pratiquement que tu prennes des pièces LG. Dans ce temps-là, c'est cher. Puis LG, en plus, ils ont fait un nouveau règlement dans leur compagnie. On peut acheter juste d'LG. Tandis que toutes les marques, il y a des dépositaires un peu partout. Et qui ne sont pas nécessairement de Whirlpool ou de GE. C'est comme moi, là, des commerçants.
Ouais.
Qui, eux autres, se spécialisent à faire venir des pièces. Ces pièces-là... Écoute, moi, je peux partir, là... Ça a l'air un peu tête enflée, là. Avec une paire de pinces et un tournevis. Puis, je te le dis, 3 ou 4 pièces dans mon petit coffre, là. M'en aller réparer un réfrigérateur. Mm-hmm. Puis, à 99 % mettre dessus.
Ah oui.
Je vais avoir la bonne pièce. Peu importe le frigidaire.
Pourquoi les gens font de moins en moins appel aux réparateurs?
Parce que, écoute, ça te coûte un prix de fou. Pour venir te dire qu'est-ce qui se passe avec ton frigidaire, ils se déplacent, puis là, ils sont aux 15 minutes, aux 5 minutes. Nous autres, avant, c'est 10 piastres d'appel de service, puis that's it. C'est de rencontrer du monde honnête que tu peux parler au téléphone, parce que les techniciens, là, 90 % au téléphone, tu leur expliques ton cas, là. Ils savent très bien c'est quoi. T'as pas besoin d'envoyer quelqu'un à la maison. Peut-être à 10 % mais le reste, là. Au téléphone, on le sait c'est quoi. Puis si t'es honnête un peu, tu avertis le gars. Écoute, si j'y vais, là... Je vais aller annoncer le décès de ton appareil. Je n'irai pas t'en réparer, ça va coûter trop cher.
OK.
Ah, les laveuses, les sécheuses, là, c'est combien? Puis quelle marque que t'as?
Bon, nous autres, monsieur, on vend du Gaëtan. C'est vraiment la meilleure marque que vous pouvez trouver.
Ouais, puis le service de ça, là, c'est-tu vous autres,
ça? Non, mais monsieur, on en vend depuis 15 ans, puis on n'en a pas réparé une seule encore.
Ouais, t'évites le service, toi?
Pardon?
On peut pas tout remettre sur les entreprises parce qu'il y a des pratiques. Bon, premièrement, c'est pas toujours facile de prouver. C'est extrêmement compliqué. Il y a eu beaucoup de critiques sur par exemple sur les électroménagers, mais lorsqu'on regarde, il y a eu plusieurs rapports qui sont sortis, qui se contredisent un petit peu. Il y a des rapports qui démontrent qu'il y a une baisse de la durée de vie. Il y en a d'autres qui disent, attention, c'est pas extrêmement lié à... Donc, c'est très compliqué. C'est pas toujours de la faute de la marque. Hein. Des fois, c'est le détaillant lui-même qui dit, bon, mais moi, j'ai pas commandé de pièces détachées parce que finalement, j'ai pas envie de faire de réparation. Puis le consommateur aussi, à un moment donné, c'est aussi à lui d'être responsable. Parce que, oui, c'est vrai qu'il y a de la nouveauté, oui, la publicité, il y a du marketing, il y a le changement, il y a la mode, mais le consommateur, c'est quand même lui qui reste, c'est le dernier, c'est celui qui fait le choix. C'est lui qui peut décider, oui ou non, de, entre guillemets, de jouer ce jeu-là.
Il existe maintenant toutes sortes de sites Internet pour les bidouilleurs 2.0, comme ifixit.com, qui vous donnent toutes sortes d'ateliers pour réparer vous-même vos appareils. Vous pouvez aussi aller jaser avec Elvis au coin Papineau et Marianne. Je pense qu'il va vous expliquer avec plaisir comment gosser vous-même dans votre frigidaire. Alors, à vos tournevis citoyens!
Ouais, c'est un bon exemple. Là, je me suis fait la soupe minestrone, puis je me suis laissée avec un petit mot ce que c'est, puis la date, comme ça je l'oublie pas. Une banane, hein? J'avais des vieilles bananes qui commençaient à noircir, fait que je l'ai mis directement là-dedans, puis je vais m'en servir pour faire un pain aux bananes, quelque chose du genre. On produit pour envoyer la moitié à la poubelle, puis quand il y a du monde qui crève de faim, là, quelque part, il y a vraiment un problème. Les Amis de la Terre, c'est un organisme communautaire qui a été fondé en 1978. Ce qu'on fait, dans le fond, c'est de la défense collective des droits puis de l'éducation populaire autonome dans les domaines principalement de l'agriculture, de l'eau. Estelle Richard, des Amis de la Terre de Québec. Je suis organisatrice communautaire chargée du dossier Zéro déchet et chargée du projet Sauve ta bouffe. Sauve ta bouffe, en fait, notre objectif, c'est de diminuer le gaspillage alimentaire, en gros. La façon dont on s'y est pris, d'abord, c'est de viser les ménages, parce que, bon, il y a du gaspillage qui se fait tout le long de la chaîne de production, là, du champ à l'assiette, et même après l'assiette. Qu'on va monter des outils, on va créer un site web, sauvetabouffe.org, qui propose des trucs et astuces anti-gaspillage. Puis, parallèlement, donc, on a monté ce site web-là, on a fait le lancement, ça marche vraiment bien, on est très contente des statistiques de fréquentation, c'est même étonnant. Puis, parallèlement au site web qu'on anime, puis la page Facebook et tout ça, on a donné aussi des ateliers de cuisine qui ont vraiment été très populaires. Ça, c'est un besoin qu'on a remarqué. En fait, là, les gens manquent de techniques culinaires, ils savent pas trop comment apprêter. Il y a certains ingrédients, par exemple les citrouilles à l'Halloween. Il y a tellement de gaspillage qui se fait à l'Halloween, pourtant tu peux cuisiner une citrouille, tu sais, ça se mange.
Donne-moi quelques trucs de récupération okay.
d'aliments. Ben comme là, en ce moment, tu peux voir sur ma table, j'ai de l'aneth qu'une de mes amies avait chez elle, puis elle savait pas trop quoi faire avec. Elle commençait à tourner de l'œil un peu. Fait que les herbes fraîches, puis c'est la même chose avec, disons, des pieds de céleri, des choses comme ça. Tu peux les mettre juste dans un peu d'eau, puis ça va les conserver plus longtemps. Donc, tu coupes comme le bout, puis tu les mets à tremper dans l'eau. D'autres trucs de transformation, ben l'été, souvent, dans les marchés, tu sais, t'achètes des bottes de carottes, puis les feuilles, t'es jettes. Ben au lieu d'les jeter, ce que tu peux faire, c'est soit tu les fais blanchir, puis tu les intègres à une salade ou peu importe. Ça a un petit goût de carotte, puis un peu amer, vraiment intéressant. Sinon, ce qu'on aime bien au comité, ben, avec les bénévoles avec qui je travaille, pis c'est de les faire griller lentement au four avec un peu d'huile d'olive, puis des herbes, genre ben, des épices. Plutôt, là, moi, j'aime bien au cumin, je trouve ça se marie bien. J'ai ma coloc ici aussi, t'as assez drôle ce qu'elle fait, elle, avec le marc de café. Une fois que t'as fait ton café, puis que bon, tu le laisses refroidir, elle s'exfolie avec. Puis elle dit que ça marche vraiment bien. Là, moi, je l'ai jamais fait.
Ben, juste dans la douche.
Ouais, ouais. Mais ben, moi, j'ai pas besoin d'exfoliation. Ma peau vient trop sèche, fait que je le fais pas. Mais ouais, ça, c'est un autre truc. Ouais. Si si ton pain est sec, t'en fais de la chapelure, tu fais des croutons, tu fais de la, tu sais, tu fais quelque chose là. Puis c'est vrai que le pain, c'est quelque chose de tellement facile, tu le congèles. S'il devient un peu sec, il y a le petit truc aussi qu'on donne sur Sauve ta bouffe de le passer rapidement à l'eau, puis tu le mets au four quelques minutes, tu sais, ça le rafraîchit. En fait, c'est que c'est ça. On s'est rendu compte que ben il y a beaucoup de choses qui causent le gaspillage chez les gens. Bon, le rythme de vie, le fait que on prend pas le temps de cuisiner, puis qu'on a l'impression que c'est compliqué. Puis souvent, les gens essaient de se dire, les gens essaient de prendre des bonnes initiatives, de se dire, OK, là, cette semaine, je vais manger des légumes. Puis je me suis tellement fait dire souvent quand je parlais du projet, ça m'arrive, là, je vais à l'épicerie, je vois des beaux légumes, des beaux fruits. Je me dis, je vais bien manger, je vais en acheter. Puis finalement, la personne, est invitée au resto un soir, rentre tard de travailler l'autre soir, a envie de manger des sushis tel autre soir. Puis l'autre soir, il se retrouve, puis là, ses légumes commencent à être fatigués, tu sais. Fait que c'est vraiment dans ce sens-là. On s'est dit, dans le fond, si on était capable de faciliter au quotidien la gestion de son frigo, de ses aliments, ça aiderait les gens à diminuer le gaspillage. Puis c'est vraiment une problématique qui touche les gens, parce que c'est rare que tu parles de gaspillage alimentaire puis que le monde te dise « ben oui, ben c'est pas grave, là, on jette, t'sais. » C'est très rare, là. La plupart du monde me dit ça, ça me fend le cœur, mais il est plus bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, c'est ça, il aurait fallu en aval faire quelque chose. C'est sûr que quand t'arrives puis c'est pourri, ben là, c'est pourri, t'sais, malheureusement. Le mieux, c'est de le composter si on a accès à ça, mais...
Est-ce qu'il y a des gens qui vous écrivent?
Oui, ben en fait, le site web Sauve ta bouffe est un blog. Donc, il y a un espace pour les gens pour nous donner leurs propres trucs et astuces. Puis nous, on essaie vraiment de faire mousser ça parce que c'est pas vrai que nous, le comité, on a toutes les... on connaît tout le monde a ses petits trucs de transformation, ses petits trucs de conservation, les petites recettes rapides et sympathiques à faire. Donc, il y a vraiment un espace pour les commentaires. On en reçoit régulièrement. Il y en a sur Facebook aussi, ça se parle. Puis, des fois, par courriel, les gens écrivent directement aussi. Mais c'est un aspect du projet qu'on veut développer davantage. Vraiment, si on regarde les statistiques, c'est beaucoup Québec-Montréal, mais il y en a aussi Trois-Rivières, Sherbrooke, Rimouski, on a des internautes de la France, la Belgique, il y en a même vraiment pas beaucoup là, mais j'en ai vu je pense qu'il y a 5-6 personnes d'Afrique francophone qui sont venues là, voir le site, donc petit à petit là on fait notre chemin.
C'est un peu différent pour eux les réalités,
j'imagine. Mais dans les pays en voie de développement, le problème est vraiment plus au niveau de la chaîne de transformation là, du champ dans le transport, parce que les transports sont pas adéquats, les routes sont pas belles, fait que ça se perd, si on peut nécessairement.
Moi, j'ai entendu dire aussi que des fois les exportateurs vont gaspiller carrément des fruits qui sont pas aptes à être exportés.
Ouais, parce que esthétiquement parlant, ça correspond pas aux critères aussi là, tu sais. Puis justement, il y a une étude qui est sortie il y a 2 semaines, une étude anglaise qui disait que au Vietnam, 80% du riz produit ne se retrouve pas dans les assiettes. C'est énorme là, 80% là. En cours de transformation, dans le transport, il y a aussi les critères. Là. C'est sûr que du riz, disons basmati, doit mesurer à peu près ça, ta. C'est la même chose avec les stocks, avec les poissons, les choses comme ça. T'sais, les pêcheurs, ils vont avoir plein de poissons sur leur bateau, mais là, il y en a qui sont trop petits, trop gros, pas assez gros. En tout cas, c'est long avant qu'ils les remettent à la mer. Fait que souvent, il y en a qui vont finir par mourir de toute façon parce qu'ils les rejettent à la mer quand ça fait 2 heures qu'ils sont sur le pont du bateau.
Pas
jeter, rien. J'essaye, Marguerite, je
suis pas pire.
Ouais, pas pire.
Sauve ta bouffe!
Ouais. Est-ce que tu trouves ta sœur extrémiste du gaspillage ou ça va?
Pas extrémiste, là. Je suis pas extrémiste, mais je veux dire, là, elle a pas vu ça, là. Je veux dire, ça, c'est pas cool, là.
De quoi, c'est quoi?
Ben, je sais pas, là, des petits. Ah oui. Pleure, là, je sais pas quoi, là,
Non, mais elle a, mon Dieu, puis elle vide la poutine
avec ses mains.
Mais faites-vous du compostage?
Oui!
Je fais vraiment attention, tu sais, je fais plus mieux que ça.
que j'haïs vraiment ma voisine. Hein?
Là, laquelle des deux? Là? Celle qui a 48 chats puis juste deux dents? Ou l'autre là, qui mélange souvent midi puis minuit quand vient le temps d'écouter sa compile de Van Halen à plein volume?
Drette celle-là. Ah. Tu sais, si j'avais le choix d'habiter à côté d'une personne entre ma voisine puis un cyberprédateur sexuel, ben je choisirais le cyberprédateur sexuel. Bon, en autant qu'il n'y ait pas mon adresse courriel. Là. Mais tu vois, je l'aime vraiment pas, ma voisine.
Vraiment pas.
Puis pour ajouter de l'huile sur le feu, du gaz dans ma chine, de l'eau au moulin, des fruits confits dans l'hostie de gâteau puis de la haine dans mon cœur, l'autre soir, ma voisine a sorti ses vidanges en retard, sachant toujours pas, après 3 ans qu'elle habite à côté, la différence entre un mardi soir puis un mercredi soir.
Puis?
Ben, son sac de vidange est resté sur le bord de la rue.
Fait que j'imagine que t'es allé fouiller dedans.
Mais hein! Ben, j'ai dû repousser Paco le robineux, là, qui était déjà en train de sucer du cartilage de poulet. Mais oui, j'ai fini par avoir accès au fameux sac. Puis tu sais-tu qu'est-ce que j'ai découvert?
Ben, que Paco avait attrapé la salmonellose.
Non, ma voisine jette tout, puis elle recycle pas.
Elle recycle pas? Hey!
Non.
Hey! Pourquoi pas aller crisser des coups de batte de baseball en arrière de la tête du Bear Reeves tant qu'elle est partie?
Hein? Elle se pense bien smart avec ses restants de pids, sa brocheuse pétée en deux, ses souliers aux talons cassés, son protège cafetière italienne en styromousse pis son cartilage de poulet passé date. Mais j'ai des petites nouvelles pour elle. Son pot de confiture, sa boîte de céréales finie pis son carton de lait, ben il était pas à bonne place.
Mais au moins on sait qu'elle déjeune. C'est important déjà.
Hey! Elle mérite pas de déjeuner. Il y a des enfants trop pauvres pour déjeuner le matin. Puis elle recycle pas. Je vais te le dire, elle mérite pas de vivre.
Oh.
Le recyclage, c'est la vie. Qu'est-ce qu'ils vont faire, nos petits-enfants, hein, quand il y aura plus de matériel, juste des déchets partout, des dépotoirs de plastique partout, des boîtes de carton partout. Hein? Ils vont faire quoi, nos petits-enfants?
Ben, ils vont les recycler.
Change pas de sujet. C'est à nous de recycler si on veut changer le monde pour qu'il soit meilleur. Je sais que nos parents ont pas connu ça, là, mais moi, depuis aussi longtemps que je me souvienne, à petite école, on nous parlait des 3 R tout le temps. Les 3 R par-ci, les 3 R par-là, c'est important les 3 R. Le recyclage, la récupération, puis l'autre R, voyons...
Richard,
bon, c'est ça. Puis le petit Richard, il recyclait en tabarnak. Il recyclait même ses crottes de nez en les mangeant. On avait beau le trouver dégueulasse, là, le petit Richard, il avait compris l'essence même de la vie et du bien-être de la planète Terre. Le recyclage, aussi minime qu'il soit, parce que tu le sais, chaque geste compte.
Ah, chaque geste compte. À la maison, si vous avez une chose à retenir de ce que Nadine dit, c'est tellement beau ce que tu dis, Nadine. Chaque geste compte. Chaque geste est important.
T'as utilisé une cuillère en plastique pour manger ton petit coupe de yogourt? Ben, tu rinces le tout puis tu sacs ça dans le récic. Merci, bonsoir. Pas de discussion, pas de chiolage. T'es divorcée? T'en veux éternellement à ton ex-mari d'être parti avec un homme? Recycle l'or de ton anneau de mariage puis fais-toi-le plaquer ses dents. Fait que même si ta vie va mal, t'auras toujours un sourire scintillant devant ton ex. Boum! Merci, bonsoir. Pas de discussion, pas de chiolage.
Ton linge est rendu trop petit pour toi? Ben, recycle en guenille puis va t'en acheter d'autres, la grosse.
Hein, tu vois? On peut recycler toutes sortes d'affaires. Le verre, le papier, le plastique, l'ex de sa meilleure amie, plein d'affaires.
Puis on aurait tendance à penser que le recyclage, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de récent, mais il y a plein d'études qui ont découvert récemment que ça date d'il y a longtemps, le recyclage.
Hey, déjà à l'âge de bronze, on recyclait. Man, ça veut dire que les dinosaures avaient compris ça, mais que ma voisine n'est pas capable d'assimiler que si elle mettait tous ses magazines In Touch Weekly dans le recyclage, ben ça servirait à écrire encore d'autres bullshit de niaiseries de magazines gossip, tu sais. Hein? L'œuf ou la poule?
Ben, je te dirais l'œuf, mais en autant qu'on met le contenant dans le recyclage après.
Check, le recyclage, c'est la vie. Dans le fond, même l'être humain, c'est le recyclage de 70% de particules d'eau mixées à d'autres cossins, là, comme des électrons, un tableau périodique, puis des béchères, puis whatever. OK, j'ai coulé ma bio de 5, mais j'ai fini avec 97% en écologie en secondaire 1 fac, OK?
Oh.
Le recyclage, c'est important, mais c'est aussi utile. Hey, avec des goupilles de canettes de Coke... On peut faire des chaises roulantes.
Hein?
des chaises roulantes. On devrait donner des ordonnances de coke aux hypoglycémiques. On en aurait plus des pénuries de chaises roulantes, là.
On a des pénuries de chaises roulantes?
Laisse faire. Ce que je veux dire, c'est que le recyclage, ça donne la job au monde en plus. Les ingénieurs, les fabricants de machines à recyclage, le monde au tri du stock, là, les crisseurs de sacs d'un troc à recyclage, ça en fait du monde, ça, là, hein? Même les frères Rémillard ont fait une fortune avec une compagnie de recyclage. Puis ils ont même recyclé tes QS. Je te dis, recycler, c'est payant, puis tout le monde est gagnant. Par contre, il y en a un que j'aimerais vraiment qu'il arrête de recycler.
Ben là, ça fait comme 5-6 minutes que tu parles, que le recyclage c'est important, puis tout le monde devrait recycler, puis là, c'est important de recycler, tout le monde à la maison, faudrait que tout le monde recycle.
Oui, mais non. Lui, il abuse, puis c'est Sylvain Cossette.
Ouais.
Sylvain Cossette, là, il garde sa carrière de chanteur-interprète en vie avec le recyclage, parce que sa carrière d'auteur-compositeur est d'un poubelle depuis un sale bout, OK? Il reprend pareil comme les chansons originales. Les mêmes arrangements, le même son, tout pareil.
Hey, c'est pas compliqué, je pense que si Ringo avait été encore vivant, il l'aurait invité à jouer le drum sur l'été de Bee.
Ben ok, come on Sylvain, sois créatif, trouve un nom au cheval de A Horse With No Name, donne une grosse affaire au lieu d'une little bit, envoie un courriel au lieu d'un message in the bottle, sacrament, on est en 2013. Puis pour prouver que tout le monde peut faire du recyclage, pas juste fucking Sylvain Cossette, ben nous aussi, on va en faire du recyclage avec la toune de Led Zepp. Bon, OK, la voisine n'avait pas laissé assez de bouteilles vides pour faire Stairway to Heaven, fait que on en fait une autre toune de la dizaine. 3, 4! You need cooling, baby, I'm fooling. I'm gonna step, yeah, back to schooling. Way down inside, honey, you need. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh, one oh one oh love. One oh one oh love. One oh one oh love. One oh one oh love.
Hello. Des
bonne nuit, voisine.
Les reprises ont été tellement à la mode dans les dernières années que la disque a fini par leur créer leur propre catégorie. Mais les reprises ne datent pas d'hier. Dans certains styles musicaux, comme en jazz, on leur donne d'ailleurs le noble titre de standard. En chanson populaire, il y a au fond deux sortes de reprises. Il y a celle où un artiste se fait plaisir en revisitant des chansons qui lui tiennent à cœur, et celle où on a plutôt l'impression qu'on se la joue facile en reprenant des succès déjà éprouvés. Est-ce plus subtil quand on change la langue de la chanson? Encore là, ça dépend. Pour un Cabrel qui adapte par admiration une chanson de James Taylor ou un Placard qui réinvente une pièce récente de Tom Waits, combien de covers à la voix comme je te pousse, pâle copie de l'original? Chez nous, quand on parle de reprises de succès anglo, on pense d'abord au groupe Yéyé des années 60. Comme dans cet exemple où le Fun 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 des Beach Boys est devenu le Fume 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 de la formation Les Excentriques. Si une fille en s'en allant se payer ta tête, si tu sens tous mes tes idées sans que ça s'arrête, alors demande à un copain une cigarette. T'en fais pas, fume, 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 fais la fumée sur tout ça. C'est le même genre de passe-passe phonétique qui avait été fait quand Pierre Lalonde a transformé le succès de Herman's Hermits There's a Kind of Hush en Donne-moi ta bouche.
Donne-moi ta bouche. Why on n'est pas peur de moi. Why on n'est pas peur, laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'embrasser. Écoute-moi bien, donne-moi ta bouche. Tu n'as pas de cœur, crois-moi.
À la même époque en France, une bonne partie du répertoire des Johnny Hallyday, Claude François, Eddie Mitchell et consorts utilise la même recette. La formule semble toutefois avoir duré plus longtemps chez nos cousins d'outre-mer. Les reprises françaises des années 80 sont particulièrement, comment dire, pas juste quétaines, là, un petit peu cheap. On les dirait réalisées avec un clavier Casio acheté à rabais chez l'équivalent hexagonal des Radio Shack. En plus, c'était des hits des groupes britanniques et américains de l'heure, repris par des artistes de variété française. On se retrouve ainsi avec Sylvie Vartan reprenant Eurythmics.
Et puis, à quoi tu rimes avec ton parfum d'aspirine? Ne perds pas ton temps, plus rien ne me mine. J'ai le moral et les idées clean. C'est lui ma médecine, mon antidote, le remède à tout. Rien ne me compte.
Ou avec Sheila, dans une innommable version de Psycho Killer des Talking Heads. Au Québec, si je pense aux années 80, il n'y a que les Simards qui ont continué à recourir régulièrement à cette méthode. Mais n'ayez crainte, vous avez déjà assez souffert, alors on vous épargne la vie chante où tous les enfants se donnent la main. Pour clore cette chronique, j'ai plutôt choisi d'apaiser vos oreilles irritées avec une reprise réussie. Un de ces cas où l'artiste n'a pas cherché à tirer avantage d'un tube notoire, mais a plutôt voulu faire sienne une chanson d'un auteur-compositeur qu'il aime. Dans ce cas, il s'agit de l'Américain Townes Van Zandt à la sauce Isabeau et les chercheurs d'or.
Un jour de panne sur le highway, j'ai besoin d'aide, mon char va mal. Un jour de panne sur le highway, j'ai besoin d'aide, mon char va mal. Ça m'arrive d'être chauffeur de van, donne-moi un lift jusqu'à Montréal. Oh, le Madrid, c'est bien bon, le restaurant est pas trop sale. Oh, le Madrid, c'est bien bon, le restaurant est pas trop sale. Jeune ami qui est malade.
Alors bonjour, mon nom est Sébastien Desrosiers, je co-anime depuis 2 ans maintenant l'émission Mondo PQ, l'envers du rétro québécois sur les ondes de CIBL. En plus de travailler conjointement avec le Musée du Rock'n'Roll du Québec, je réalise un blog Patrimoine PQ et je travaille à des rééditions avec l'étiquette spécialisée dans la réédition de d'artistes et de talents obscurs du Québec et de l'Europe. Mucho gusto. J'avais de la misère à dire. Mucho gusto.
La quatrième volonté, les Lunours, Oliva B. Blais, Yvon Hubert, Gilles Boisvert, Galactic Soul, ça vous dit quelque chose? Probablement pas, à moins que vous ne fréquentiez déjà les parutions de l'étiquette Mucho Gusto Records, qui les a tous mis sur des compilations ou à faire apparaître de leurs disques. À Mucho Gusto, on fait du recyclage dans ce que le terme a de plus noble. On donne une deuxième vie à des disques qui, ben soyons honnêtes, n'ont pas toujours eu une première vie. Leur dernier coup d'éclat, Résurrection, est une compilation de rock chrétien et de musique de messe à gogo des années 60-70. Mais au-delà des artistes obscurs, c'est aussi à eux que l'on doit les rééditions des disques de L'Infonie, le groupe de Raoul Duguay et Walter Boudreau, et du disque Laissez-nous vous embrasser ou vous avez mal, du poète Claude Péloquin et du musicien Jean Sauvageau. Mais rééditer du matériel obscur, c'est loin d'être tout le temps simple. Et on peut pas juste prendre ça, les trouver sur un vinyle, puis les mettre sur un autre vinyle après. Question de droit, j'imagine qu'il faut retrouver l'artiste original.
Tout dépend des projets, en fait, qui vous animent. Lorsqu'on parle, par exemple, de la réédition du catalogue d'un artiste ou d'un groupe en particulier, c'est passablement assez facile de retracer soit l'artiste, l'auteur-compositeur, de s'entendre avec lui, de lui faire signer un contrat et ensuite de naviguer vers les compagnies de disques qui sont détentrices des droits, vraiment.
Et lorsqu'il s'agit. L'artiste doit être content de revoir son œuvre réapparaître, avoir une deuxième vie.
Ah oui,
même que des fois, ils n'ont pas eu tant que ça une première vie.
Exactement. On a rarement eu de plaintes à ce sujet-là. Et comme plusieurs ont souffert de contrats douteux dans les années 60 ou 70, ils sont bien contents de voir des jeunes gens arriver et leur dire non, non. Vous allez être payé cette fois-ci là, pour votre édition.
Oui. Voilà, donc l'artiste est content, permet de remonter jusqu'à la compagnie de disques qui détient peut-être encore les bandes.
C'est ça. Ça, c'est dans le cas, par exemple, de la réédition d'un artiste. Lorsqu'on parle d'une compilation, c'est un travail... Exact, c'est un travail vraiment de longue haleine. Si on prend... tout à l'heure, on parlait de Freak Out Total. Là-dessus, vous avez des talents assez difficiles à retracer de nos jours. Qui connaît encore, par exemple, Lucille Bastien, Évolution Phase 1, ou des gens très, très peu connus en France comme Mosdos Phobosmos? Ouh, c'est assez difficile à retracer ces artistes-là. Dans le cas de Freak Out Total, on contourne un petit peu ça. On réalise quelque chose qui se fait beaucoup dans le domaine de la réédition dans le monde lorsqu'on a affaire à des artistes difficiles à retracer, c'est que on contacte ceux qu'on peut, on s'organise, on va signer un contrat par exemple avec les artistes qu'on a été en mesure de retracer, mais c'est pas toujours possible, il faut être réaliste quand même, c'est pas toujours possible de retracer tous les artistes ou tous les ayants droit vraiment impliqués dans une production qui a 40 voire 50 ans. À ce moment-là, on ouvre un compte à part à l'étiquette et les profits engendrés par la compilation, une partie entre autres, sont détournés vers ce compte-là qui est réservé aux ayants droit qui n'auraient pas eu le temps soit de se manifester ou qui n'auraient pas été retracés à temps au moment de la production. Et ça, c'est quelque chose qui est fait relativement souvent et particulièrement par les petites étiquettes ou même des grandes étiquettes de disques qui rééditent des artistes très, très peu connus, voire mystérieux. Là. On n'a pas toujours les crédits de composition. Et lorsqu'on a fait ça, ben savoir qui est-ce qui détient les droits du catalogue de l'étiquette qui avait pressé ce 45 tours-là il y a 40 ou 50 ans. Et c'est là que ça peut se compliquer, justement. Parce que de nos jours, le catalogue de nombreuses étiquettes sont propriétés de quelques entre guillemets, major dans l'industrie. Et ces gens-là ne sont pas spécialisés quelque part dans la réédition de disques. Ces gens-là sont là pour mousser des nouveaux talents et faire la promotion d'artistes qui fonctionnent très, très bien à l'instant présent, en ce moment, vraiment. Alors, quand on vient le temps de discuter d'un artiste qui a produit un seul 45 tours il y a 45 ans, par exemple, et qui est sur une étiquette propriété de ce major-là, ben là, on frappe souvent un mur parce qu'il y a une seule personne, voire personne, qui est en charge du back catalogue de cette compagnie-là. Et là, ça peut être très, très, très difficile à débloquer les droits reliés à la chanson qui nous intéresse. Alors, par exemple, comme dans le cas de notre compilation Résurrection, c'est un projet qui m'a occupé pendant plus de 5 ans parce qu'on a passé les 5 dernières années à essayer de retracer tous les ayants droit responsable des pièces qui étaient contenues sur notre compilation. Donc, lorsqu'on a 17 ou 18 artistes en tout, ça vous donne une idée de la charge de travail, justement, qui est derrière une simple compilation.
Tous les matins, elle vient me surprendre, tire coquettement les rideaux de ma chambre. Elle me jette le sourire désarmant et me traîne au soleil en riant sur mes chemins d'impatience. Ma petite espérance chante, sourit, danse, danse. Ma petite espérance.
Quand on a 5, 6, 12 projets sur la table, qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui va finir par gagner sur les autres?
Ah ben, il faut miser. Hein? Il faut miser sur des projets gagnants, ça c'est certain. Des fois, il faut savoir prendre un risque. Notre compilation Résurrection, à propos des messes rythmées, ça c'est un beau risque, justement. C'est peut-être pas un succès, populaire, parce que ça demeure quelque chose d'assez... c'est une niche, hein, vraiment. Mais succès critique, ah oui, et ça nous a fait plaisir. Nous, on est là pour rééditer. On n'est pas à la recherche d'un quelconque profit. On est presque un OSBL, quand même. On se plaît souvent à dire que les plus grands artistes au Québec ont été réédités. Oui, ceux qui ont peut-être eu quelques succès au palmarès. Mais si on exclut, par exemple, ceux qui ont eu des succès au palmarès, je vous dirais que facilement, le 2/3 du catalogue québécois demeure toujours à être réédité. Et ça, c'est à peine exagéré. Maintenant, si vous voulez savoir
mettons qu'on pige dans ce 2/3-là,
ouais.
Pas fait.
Ouais. Non, il y en a plusieurs.
Il n'y a aucune difficulté nulle part. Mm-hmm. Tu retrouves le gars en ouvrant le bottin,
ouais.
Et dit « J'ai toutes ces bandes-là, il n'y a aucun droit à avoir dégagé nulle part. » Lequel tu fais?
Moi, c'est certain qu'un album que je veux rééditer depuis toujours, c'est celui de Jean Fortier, l'album éponyme du chanteur Jean Fortier, qui était un ancien membre du groupe Les Cailloux, un groupe folklorique québécois, mais qui s'était totalement réinventé en un mélange de chanteurs engagés qui faisaient une sorte de soul psychédélique rock en 1970. Cet album-là aurait dû avoir autant de succès que Jaune de Jean-Pierre Ferland. C'est sorti simultanément. Malheureusement, son interprète est mort quelques mois après le lancement de l'album. Donc ça, c'est un genre d'album que j'aimerais faire redécouvrir. Moto PQ, l'envers du rétro québécois, c'est tous les dimanches à 17h sur les ondes de CIBL, ça c'est certain. Et aussi, on est en rediffusion constamment sur notre site web mondopq.com avec nos balado-diffusions et parfois des extraits inédits.
Et Mujo Gusto qui a un Bandcamp.
Oui.
Écoutez, est-ce que c'est tout ce que vous avez réédité qui est là?
Presque tout, je vous dirais, sauf le contenu qui est exclusif à certains disques vinyles.
Le site muchogustorecords.com, on peut tout écouter là.
Oui.
Merci beaucoup.
Merci.
C'est tout pour Dans le champ lexical cette semaine. On n'a même pas recyclé des vieux reportages ou des vieilles idées avec nous cette semaine. Caroline Larocque alors à l'obsolescence planifiée. Nancy Caouette et Sauve ta bouffe, initiative qui permet de moins gaspiller la nourriture. Vous pouvez aller chercher plein de petits trucs et partager les vôtres à sauvetabouffe.org, adresse que vous pouvez également trouver sur notre site web à danschamlexical.com. Également dans l'équipe, Mathieu Charlebois et Nadine Mathurin, qui jasent recyclage et reprennent Led Zeppelin, et Christiane Campagna, qui est entre autres une bibliothèque musicale pour l'émission. Un gros merci à Amélie Geoffroy, qui nous contait ses effroyables démêlés avec la justice et le recyclage en début d'émission. Dans le champ lexical est une réalisation de Mathieu Charlebois, Joanie Larue, Christiane Campagna et Nancy Caouette. Le thème musical est une création originale de Mara Tremblay et Sonny Duval. Revenez-nous la semaine prochaine, on va tourner autour du mot « hiver ». Et on vous dira même pas de ne pas gaspiller d'électricité. Restez à l'écoute de CIBL 101,5 FM, parce que dans un instant suit, Côté Jardin.